Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 29 décembre 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. C'est Netanyahou qui m'a demandé d'éliminer Rassem Soleimani, a reconnu Trump. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, levée des sanctions, les pourparlers de Vienne dans la bonne direction, déclaration de Amir Abdullahian. L'assassinat du général Soleimani, le procès des coupables aura lieu dans 2 mois. Et puis, bombardement meurtrier de la coalition saoudienne, le Yémen exhorte l'ONU à prendre position. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran et les autres parties à l'accord nucléaire de 2015, PGAC, tiennent le deuxième jour du 8e cycle de pourparlers sur la relance de l'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les négociations allaient dans la bonne direction et pouvaient réussir si l'autre partie fait preuve de bonne foi. Téhéran affirme que la suppression vérifiable des sanctions américaines ainsi que les garanties que Washington n'abandonnera pas à nouveau l'accord sont au cœur des discussions en cours. Le principal négociateur iranien, Ali Borelikhani, a déclaré que les deux parties ont un accord de principe mais qu'elles travailleront désormais sur des mécanismes pratiques pour y parvenir. Il dit que les sanctions financières et bancaires contre l'Iran seront également examinées. Borelikhani a déclaré que toutes les participations reconnues, les réalisations accomplies jusqu'à présent. Au cours du dernier tour, Téhéran a présenté 2 propositions distinctes sur la levée des sanctions américaines ainsi que sur les engagements de l'Iran dans le cadre du PGAC. Toujours au sujet de la reprise des négociations à Vienne, M. Borelikhani rencontre Mora, le principal négociateur iranien. Ali Borelikhani a rencontré et s'est entretenu avec le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Henrik Mora, et les représentants des 3 parties au GCPOA, PGAC, selon son acronyme français, dans le cadre des pourparlers diplomatiques intensifs de Vienne. Borelikhani a tenu mercredi une réunion bilatérale avec Henrik Mora, le coordinateur de l'Union européenne des pourparlers de Vienne à l'hôtel Cobourg de la capitale autrichienne, dans le prolongement du 8e cycle des pourparlers. Le principal négociateur iranien a également tenu une réunion avec les représentants de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne à Vienne mercredi. Le 8e cycle des pourparlers à Vienne a débuté lundi en se concentrant sur la levée des sanctions contre l'Iran. La réunion de lundi est suivie d'entretiens au niveau des experts dans le cadre des groupes de travail sur la levée des sanctions et les questions nucléaires. La Russie affiche son optimisme au sujet des pourparlers de Vienne, affirmant que des progrès incontestables sont observés dans les négociations. L'envoyé de Moscou au pourparlers a déclaré que les réunions au cours desquelles la levée des sanctions est activement discutée ont été constructives. La Chine a également exprimé son optimisme, affirmant que les pourparlers ont produit des résultats positifs. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, le trio européen, d'autre part, ont publié une déclaration commune qualifiant les négociations d'urgentes. Pendant ce temps, les États-Unis ont confirmé des progrès modestes. Washington a cependant déclaré qu'il est trop tôt pour dire à quel point ces progrès sont substantiels. Le 8e cycle des pourparlers de Vienne se poursuit alors que les revendications raisonnables et légitimes de la République islamique d'Iran ont été acceptées en son principe par les autres parties signataires du pacte sur le nucléaire de 2015, axées sur deux questions importantes, à savoir la levée vérifiable des sanctions et des garanties en cas de retour américain dans l'accord afin d'empêcher un nouveau retrait unilatéral US. Pour la République islamique d'Iran, si un accord se retrouve à Vienne, les États-Unis, en tant que contrevenants à l'accord de 2015, doivent d'abord lever les sanctions et, une fois vérifiées, des mesures liées au retour des engagements nucléaires seront prises dans le cadre du plan global d'action conjoint PGAC. Sachez d'autre part que dans un apparent changement de position, le premier ministre israélien dit qu'il n'est pas opposé à ce qu'il appelle un bon accord entre l'Iran et les quatre puces, hein, engagé dans les pourparlers de Vienne pour la reprise de l'accord international nucléaire de 2015 en agonie. Israël ne va pas automatiquement, je cite, « s'opposer à un accord qui serait conclu avec les grandes puissances sur le nucléaire iranien à Vienne », a affirmé le premier ministre israélien lors d'une interview à la radio militaire. Naftali Bennett dit qu'un bon accord est possible, mais prétend qu'une position beaucoup plus dure est nécessaire pour y parvenir. Ce nouveau geste, autrement dit revirement, fait suite aux menaces répétitives d'actions militaires de Tel Aviv contre la République islamique et ses installations nucléaires. Acharné dans son hystérie anti-iranienne, Israël accuse Téhéran de chercher des armes nucléaires, une allégation que Téhéran rejette avec véhémence. Téhéran dit qu'il n'hésitera pas à répondre à toute agression contre la nation iranienne. L'assassinat du général Soleimani, le procès des coupables, aura lieu dans 2 mois. L'inculpation des auteurs de l'assassinat du martyr Soleimani sera transmise à la Cour de justice de Téhéran dans 2 mois, a annoncé le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme, Qasem Gharibabadi. Il a souligné que parce que l'assassinat a été mené par le gouvernement américain, la plupart des auteurs sont américains. L'instigateur de cet acte terroriste, c'est le régime américain, qui a fait qu'un grand nombre d'accusés dans cette affaire soient américains, a-t-il déclaré quelques jours avant le 2e anniversaire de l'assassinat du lieutenant général Qasem Soleimani en Irak. M. Gharibabadi a expliqué que plus de 120 autres ont été identifiés, des mandats d'arrêt ont été émis pour plus de 40 et des représentants judiciaires ont été envoyés dans 9 pays pour poursuivre l'affaire. 3 pays de la région et 3 pays hors de la région sont impliqués dans l'affaire de l'assassinat des martyrs Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandis, son compagnon de lutte antiterroriste. Notant que Trump était le principal auteur de l'acte odieux, le responsable iranien a déclaré qu'une volonté internationale et la coopération d'Interpol sont nécessaires pour arrêter les criminels. Avec ses compagnons, dont le chef adjoint des unités de mobilisation populaire Ashtal Shaabi irakienne, Abu Mahdi al-Mohandis, le général Soleimani a été la cible d'une frappe de drones américains près de l'aéroport international de Bagdad le 5 janvier 2020. L'assassinat américain, directement ordonné par Trump, a suscité une vague de condamnations de la part de responsables et de mouvements du monde entier et déclenché d'énormes protestations publiques dans toute la région. Une fois de plus, les membres d'une famille palestinienne se retrouvent sans abri, un bulldozer israélien ayant détruit leur maison d'habitation près de Qouds occupée. Selon les informations, des manifestations ont éclaté à Jabal al-Moukaber lors de la démolition. Les forces israéliennes ont utilisé des ballons caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants palestiniens, blessant plusieurs d'entre eux. Israël rase régulièrement les structures palestiniennes, affirmant qu'elles n'ont pas de permis de construire. Mais les Palestiniens disent que ces permis sont impossibles à obtenir. l'ONU a signalé une augmentation de 21% du nombre de structures palestiniennes qui ont été confisquées ou détruites cette année. Les Palestiniens disent que les démolitions font partie des tentatives systématiques d'Israël pour faire de la place aux colonies illégales et dans le cadre de la judaïsation de la ville Sainte-Rots. La colonisation israélienne sur les hauteurs occupées du Golan est un nouvel acte d'hostilité contre le peuple arabe, a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Rassem, avant de dénoncer les plans qui constituent une violation du droit international, qui expose davantage, selon ses mots, la politique expansionniste du régime de Tel Aviv. Hazem Rassem a également déclaré qu'Israël ne parviendra jamais à changer l'identité arabe des territoires occupés. Auparavant, la Ligue arabe avait mis en garde Israël contre ses projets de colonisation sur les hauteurs du Golan occupés. L'organisation a déclaré qu'Israël doit cesser ses tentatives de changer la composition démographique et le statut juridique du territoire. Le régime de Tel Aviv envisage de doubler le nombre de colons israéliens au Golan en y construisant des milliers de nouvelles unités. L'actualité, c'est également le Yémen réagissant à la poursuite des bombardements meurtriers de la coalition d'agression saoudienne. Le Yémen a qualifié de grand crime pour les Nations Unies de garder le silence sur les dernières frappes aériennes de la coalition qui ont visé l'aéroport international de Sanaa. Le ministre des Transports, Amer al-Marani, a déclaré que l'ONU devait soit confirmer, soit rejeter l'affirmation saoudienne selon laquelle elle avait été informée des attaques meurtrières à l'avance. Il y a une dizaine de jours, des avions de combat ont bombardé l'aéroport de Sanaa, sous prétexte qu'il était utilisé à des fins militaires. Qualifiant de justification infondée ces déclarations, al-Marani a exhorté l'ONU et les médias internationaux à enquêter sur ces allégations. L'attaque a causé de graves dommages à l'installation et l'arrêt de ces quelques vols d'aide humanitaire, mais bien nécessaires et urgentes. Les vols ont repris mardi, mais temporairement, l'aéroport de Sanaa est placé sous blocus depuis 2015. Enfin, la Californie n'est pas le seul État américain choqué par une fusillade tragique aux États-Unis. Le Colorado est également sous le choc un jour après qu'un homme armé a tué 5 personnes. 3 autres personnes, dont un policier, ont été blessées lors de la fusillade qui a eu lieu à 4 endroits, dont les villes de Denver et de Lakewood. La police a finalement abattu le suspect après un échange de coups de feu dans un centre commercial. Les motivations du tireur restent jusqu'à présent inconnues. Beaucoup pensent que l'accès facile aux armes à feu et les réglementations lâches devraient être blâmées pour la violence effrénée des armes à feu en Amérique. Les fusillades restent un fléau récurrent aux États-Unis, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci.
C'est Netanyahou qui m'a demandé d'éliminer Qassem Soleimani. À vous, Trump. À quelques jours du deuxième anniversaire de la mort en martyr de l'ancien commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de corps d'armée Qassem Soleimani, le site web américain Axios a effectué une interview avec l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Lors de cet entretien, Donald Trump reconnaît clairement qu'il se sent utilisé par l'ancien premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans l'affaire de l'assassinat du général Soleimani. Dans son interview récemment publiée par Axios, Donald Trump est allé encore plus loin en disant « J'ai l'impression que Netanyahou consentait que les États-Unis combattent l'Iran jusqu'à leur dernier soldat. Et cela m'a fortement déçu d'Israël. Trump a fait cette remarque dans une interview effectuée en juillet dernier pour un livre avec pour titre « Trump Space », littéralement traduit « La paix de Trump, les accords d'Abraham et la refonte du Moyen-Orient », selon Axios. Je ne peux pas parler de cette histoire, les gens en entendront parler plus au bon moment, a indiqué Trump. La chaîne Al-Alam, qui rapporte la nouvelle, évoque la grande peur qui envahissait l'ancien président américain à cause de toute éventuelle guerre avec l'Iran, ce qui se traduit d'ailleurs par la façon dont il parle de sa déception quant à l'approche israélienne. On n'aurait pas besoin d'être un psychoanalyste pour le comprendre. Trump n'aurait pas prononcé ces mots s'il croyait que la guerre face à l'Iran ressemblait à d'autres guerres auxquelles ont pris part les États-Unis, précise l'article paru sur le site d'Al-Alam. En effet, la riposte iranienne au lâche assassinat du général Soleimani le 3 janvier 2020 à Bagdad était qualifiée de la réponse la plus foudroyante qu'ont subi les Américains après Pearl Harbor, attaque aérienne surprise menée par le Japon le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine du même nom. L'attaque aux missiles iraniennes sur la base américaine d'Ain al-Assad en Irak, en réaction à l'assassinat de Soleimani et son camarade de combat numéro 2 des Hashd al-Shaabi d'Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, constituait la première attaque militaire effectuée par un pays contre une base américaine dans le monde, en revendiquant ouvertement la responsabilité sans que les États-Unis osent y riposter. Les Américains n'auraient jamais pensé à un retrait du Moyen-Orient s'ils n'avaient pas la conviction que l'attaque contre Ain al-Assad ne serait pas la dernière mesure anti-américaine de l'Iran. Venger le sang de Soleimani reste toujours une responsabilité, voire un devoir que toutes les composantes de l'axe de la résistance considèrent comme leur priorité, précise l'article. C'est la pure réalité qui aurait conduit Trump à essayer naïvement de mettre sur le dos de son ami terroriste, Netanyahou, une partie de la responsabilité de ce crime, dans l'illusion, probablement, de pouvoir réduire les impacts de l'ensemble des crimes américains sur la présence des forces américaines dans la région. Quoique cette même ambiance de panique et de tension entre les États-Unis et Israël au sujet du retrait américain, tout comme la panique qui domine les rangs des Israéliens concernant la puissance grandissante de la résistance, peuvent être considérées comme les conséquences de l'assassinat du général Soleimani, comme si le général martyr s'occupe toujours de la chasse aux terroristes américains et israéliens, tout comme de son vivant, conclut l'article.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, beaucoup de pays de l'Afrique se rallient et coupent l'herbe sous le pied de la France, ce qui n'avait pas été intégré dans les calculs de cette dernière. Le torchon brûle en effet entre la France, le Mali, le Burkina Faso et pourquoi pas l'Algérie. Alors en Afrique, partout, les gens n'hésitent pas, même les plus jeunes, n'hésitent pas à affronter des convois françaises. Est-ce vraiment cette fois la fin de France-Afrique? Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
La fin de la France-Afrique est en train de sonner. Les échecs de Paris s'accumulent. Les menaces et le chantage n'ont plus l'effet escompté. beaucoup de pays d'Afrique se rallient et coupent l'herbe sous le pied de l'empire néocolonialiste. Au Mali, cela a pris quelques années, mais le peuple malien continue de briser l'empire néocolonial dans son pays. Il est clair que les deux coups d'État cette année n'ont pas fait du bien au peuple malien. Paris a tenté à coups de pression, de chantage, de menaces, de bluffs, de sournoiseries, de divisions au sein du peuple malien, de terrorisme, de démembrement, de casser le Grand Mali. Cependant, le peuple malien a de nouveau été plus malin. Le fait que les peuples défendent leur souveraineté bec et ongle était visiblement un point que Paris n'avait certainement pas intégré dans ses calculs. En 8 ans d'occupation du Mali, le démembrement via l'accord dit d'Alger, ou plutôt l'accord de Paris, n'a pas pu se faire. Le Mali est resté le Mali. Malgré les nombreux plans que Paris a mis en place pour séparer le nord du reste du Mali, avec des interdictions aux officiers maliens de se rendre dans certaines zones du nord, et de même la difficulté du peuple à se rendre dans cette partie du pays, n'a pas du tout donné l'effet escompté. La dernière visite du ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, au Mali, a d'ailleurs porté un grand coup à la France-Afrique. Il a clairement déclaré que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, est également le tombeau du colonialisme et du racisme. De son côté, suite aux propos indécents et dénigrants du président français Emmanuel Macron concernant non seulement le Sahel mais surtout le Mali, le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français en fonction à Bamako. Les propos du président français reflètent clairement sa vision et sa politique france-africaine. Contrairement à ce qu'il avait déclaré notamment lors de sa venue à Ouagadougou, où il prétendait vouloir mettre fin à la France-Afrique, s'avère être de nouveau un mensonge. Le président Macron devrait justement savoir que c'est grâce à la France que le terrorisme s'est propagé en Afrique, notamment avec l'attaque de la Libye. Comme le disait le défunt président tchadien Idriss Déby et l'ex-président nigérien Mamadou Issoufou avant l'attaque de la Libye, il n'y avait pas de terrorisme en Afrique. Tout comme avant l'arrivée des troupes d'occupation étrangères en Afrique, il n'y avait pas non plus de conflits interethniques ou interreligieux. L'Afrique est souveraine et le peuple africain défend sa souveraineté. Et Paris peut trouver autant d'alliés qu'il souhaite pour maintenir l'Afrique sous le couvercle du néocolonialisme. Ce couvercle lui explosera à la figure. Ce couvercle porte maintenant le nom de coup d'État contre la France-Afrique.
Vous regardez l'émission Le Débat, la France-Afrique, ou plutôt je devrais dire la fin de France-Afrique est au cœur du sujet du débat d'aujourd'hui. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et à mon collègue Pierre Claver-Codeau, qui est un ami.
Un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour à M. Pierre Claver-Codeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, qui est avec nous depuis l'Afrique. Monsieur Codeau, bonjour. Monsieur Codeau, est-ce que vous nous entendez? Si oui, bonjour. Malheureusement, nous avons un problème de liaison. Alors, je vais commencer par Monsieur Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, Monsieur Michel, j'aimerais que vous commenciez ce débat en disant quelques mots à propos de cet adolescent qui n'a pas hésité d'affronter la convoi française. Donc, les mains nues, ça nous rappelle un peu les Palestiniens. Que pensez-vous?
C'est un héros africain et il montre que la jeunesse africaine, conscientisée par le néo-panafricanisme, n'a plus peur ni des impérialistes ni des Français. Mais il faut faire une remarque tout d'abord sur le Mali. Le Mali, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution qui est menée par des militaires patriotes. Le colonel Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui est de la lignée des Kadhafi et des Thomas Sankara. Il y a une complète adéquation, une complète alliance entre les militaires patriotes maliens et le peuple malien. C'est une révolution populaire. C'est cela que les Français n'ont pas compris.
Oui, Luc Michel, ce qui passe au Mali, on dirait que c'est sans la présence de la France n'a pas un mot à dire à ce sujet. Ils n'ont vraiment rien à faire de la France dans cette révolution que vous évoquez.
Non, justement, la France, justement, n'a plus la main. Elle n'a plus la direction des opérations. Et les militaires maliens, ce sont des colonels pro-russes qui ont pris le pouvoir dans le but d'une alliance militaire avec la Russie. Il y a aujourd'hui un axe qui est Alger, Moscou, Bamako, qui a changé toute la donne géopolitique dans le pays et qui fait suite à l'axe Moscou-Bangui. Mais je tiens à vous faire tout d'abord une remarque. Il faut comprendre que la France est une puissance décadente, c'est une puissance secondaire, c'est une puissance géopolitiquement qui est une petite puissance. La France, elle est présente en Afrique parce qu'elle intervient sous un parapluie américain. Je dis souvent que la grande ombre de la marionnette française, elle dissimule la main de la marionnettiste américaine. Depuis Giscard d'Estaing, les Français y sont présents géopolitiquement en Afrique sous parapluie américain et parce qu'ils sont le gendarme de l'Afrique et disait Donald Trump, le shérif de l'Afrique en Afrique. Mais la France aujourd'hui, elle n'a plus la confiance des États-Unis. Et les États-Unis ont un plan géopolitique qui est de remplacer directement les États-Unis, de remplacer directement la France en Afrique par l'OTAN, et notamment de remplacer la France par la Turquie, qui est la seconde armée de l'Afrique. Ce qui explique la chute de l'impérialisme français et le crépuscule de la France-Afrique, c'est justement cette perte de confiance des États-Unis dans la France et justement le fait que la France doit être remplacée militairement directement par l'OTAN et par la Turquie.
Oui. Alors, Luc Michel, vous avez évoqué la présence des Américains en Afrique. On entend très peu de cette présence, mais l'affaiblissement de la France en Afrique, c'est dû justement aux États-Unis?
Oui, tout à fait. Les États-Unis sont en train de redéployer l'OTAN dans une zone qui va du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Auparavant, l'OTAN ne concernait que le Maroc et la Libye. Et ils sont en train de déployer notamment leur allié de l'OTAN, notamment la Bundeswehr de Merkel un peu partout, au détriment des Français. Il faut comprendre ce qui se passe. Il y a quelques semaines, le jour du sommet de Montpellier à Paris, est sortie une biographie de la France-Afrique qui s'appelle « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Ça résume tout le problème. Lorsque Macron est devenu président, il est arrivé avec un plan pour faire survivre la France-Afrique. C'était ce qu'on appelle la France-Afrique 2.0. Il s'agissait de prendre le contrôle de la CEDEAO à partir d'une alliance avec le Maroc. La France a donc fait rentrer les Marocains dans la CEDEAO et il s'agissait de faire de la monnaie unique de la CEDEAO qu'on appelle le projet ECO, de faire le nouveau franc, le nouveau visage du franc CFA avec l'aide des Marocains et de la Côte d'Ivoire qui sont les deux principaux alliés de la France dans la région. En 2017, donc, les Américains de Donald Trump appuyaient ce projet. Mais en 2019, il y a eu le Brexit. Qu'est-ce que c'est le Brexit? C'est un projet qui intervient dans la guerre économique entre les Anglo-Saxons et les Français pour fracturer l'Union européenne et faire partir la Grande-Bretagne. À partir de ce moment-là, les États-Unis de Donald Trump ont appuyé Londres et ont empêché les Marocains, les Français et la Côte d'Ivoire de s'emparer de la CEDEAO. Avec l'aide de l'allié des Anglo-Saxons qui est le Nigeria, les Français les Américains ont empêché le projet français. Ils se sont opposés à elle et depuis, les Américains s'opposent au projet de la France, de cette France-Afrique 2.0. C'est l'échec français. Ça explique aujourd'hui que cette France-Afrique 2.0, elle est en échec et qu'elle va continuer à échouer. C'est la mort et le crépuscule de la France-Afrique.
Oui.
Les tentatives de la France, notamment le sommet de Montpellier, mais partout, la France-Afrique, elle échoue parce que justement, elle n'a pas l'appui. Elle n'a plus l'appui ni des Français, ni des anciens alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, donc, les Américains
Absolument.
Veulent prendre la main partout sous l'ancienne France-Afrique. Et un deuxième, évidemment, partenaire des Africains est arrivé, c'est la Russie et le bloc de l'Est, les Chinois et surtout votre pays, l'Iran. C'est ce qui explique évidemment aujourd'hui l'échec définitif à mon sens de la France-Afrique. Il faut comprendre quelque chose, c'est que évidemment, la France fait de la résistance. Elle n'accepte pas son déclassement géopolitique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un déclassement géopolitique qui intervient en Afrique, mais qui intervient également en Europe. En Europe, l'Europe, c'est que l'Union européenne s'est construite sur un duo franco-allemand, mais depuis la réunification de l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est, c'est l'Allemagne qui est hégémonique en Europe. L'euro, par exemple, c'est un euro-marque. La banque de l'euro, elle est à Francfort, en Allemagne. Et donc, la France est déclassée aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais la France fait de la résistance. Ça explique ce qui se passe en Centrafrique. Ça explique ce qui se passe au Mali. Ça explique ce qui se passe au Burkina Faso. Ça explique ce qui se passe, évidemment, au Niger. Mais malheureusement, cette tentative de résister de la France, elle est menée en elle se bat, va commencer par les populations africaines qui n'ont plus peur de la France-Afrique. L'arrivée des Russes, elle est apportée, et des Iraniens, elle apporte de l'oxygène géopolitique aux Africains qui ont aujourd'hui les moyens géopolitiques de résister. C'est ce qui explique toutes les gesticulations sur les soi-disant mercenaires russes, toutes ces gesticulations sur le groupe Wagner, etc. La France, elle est en échec. Qu'est-ce qu'il faut également retenir? C'est que ces tentatives de résister économique et géopolitique de la France, elles sont battues en but un peu partout par les Américains, par les Africains, mais aussi par les Russes et par les Iraniens. C'est la fin de la France-Afrique parce que géopolitiquement, la France n'a plus les moyens d'être une puissance qui dirige et qui agit comme puissance directrice en Afrique. C'est une puissance secondaire qui est en train d'échouer, que ce soit contre ses adversaires du bloc de l'Est, que ce soit contre ses anciens vassaux africains, que ce soit contre ses anciens alliés américains.
Absolument. Et Luc Michel, beaucoup d'Africains, les Burkina Faso, au Niger par exemple, et même le Mali, pensent que la présence française est signe du terrorisme. Au lieu de faire régner la sécurité dans ces pays-là, ils sont là, mais donc, ils créent la terreur dans la... Pensez-vous ?
Les responsables du terrorisme, ce ne sont pas la France, ce sont les Américains. En 2011, les Américains ont lancé une grande opération de remodelage géopolitique de l'Afrique qu'on a appelé le printemps arabe, qui a commencé avec la destruction de la Jamaïque de Kadhafi, qui était le pivot géopolitique de toute l'Afrique centrale. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé à partir de 2014 une deuxième opération américaine menée par Obama, Hillary Clinton et John Kerry, qu'on a appelé donc le printemps africain. Elle a été continuée par la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton et aujourd'hui par les politiques africaines et arabes de Kamala Harris et de Joe Biden. C'est dans ce contexte que le terrorisme a été implanté dans toute l'Afrique, c'est-à-dire qu'avec l'aide des Turcs notamment, les Américains ont implanté et ont développé le djihadisme dans tout le monde arabe et africain. Les Français n'ont été que des porteurs de valises. Ils ont agi sous parapluie américain. En particulier, il y a eu deux séquelles, deux opérations géopolitiques qui sont des scénarios géopolitiques à la Libyenne qui ont été développés en Centrafrique et au Mali par les États-Unis avec l'aide de la France. Ça a été l'arrivée d'une coalition terroriste d'Acmi au Mali et de la Seleka en Centrafrique. La Seleka, c'est une coalition islamiste que les Américains et les Français ont amené au pouvoir à Bamako. La Seleka, ça veut dire en son. Là-bas, c'est Al-Qaïda, vous voyez mieux. Et au Mali, les Français et les Américains ont amené au pouvoir des terroristes. C'est l'Azawad malien, les Touaregs, alliés à Al-Qaïda, donc au Maghreb. Et c'est eux qui sont les responsables de cette explosion du djihadisme un peu partout, en Afrique centrale et dans la côte de l'Afrique.
Tout à fait.
Quand Kadhafi est détruit, il y a une seule grande organisation djihadiste, c'est Hakimi. Elle est constituée de mafieux qui sont des trafiquants de cigarettes. Aujourd'hui, en 2021, il y a quatre grandes organisations djihadistes transnationales. Il y a les djihadistes d'Hakimi qui sont présents dans tout le Maghreb. Il y a les gens d'Al-Qaïda, l'État islamique au Grand Sahara, les gens, pardon, excusez-moi, de Daesh.
Absolument.
Qui sont présents dans tout le Maghreb, notamment en Libye, etc. Il y a les gens de Boko Haram qui sont présents dans toute la région, en particulier sur la ligne du Lac Tchad. Il y a enfin les gens, les chebabs somaliens qui sont aujourd'hui présents dans toute la côte de l'Afrique jusqu'aux frontières du Sahel et qui sont présents non plus seulement en Somalie, mais qui sont présents donc au Sahel, qui sont présents au Kenya, qui sont présents
d'accord.
en Éthiopie, qui sont surtout présents au Mozambique. C'est cela la réalité du djihadisme. Les Français, c'est une puissance secondaire. Les responsables, évidemment, ce sont les Américains.
Les Américains, tout à fait. Est-ce que vous voulez bien conclure, M. Luc Michel, dans l'avenir, peut-être un approche, donc un avenir très très proche, nous serons témoins de la fin de France-Afrique, ou on l'est déjà peut-être. Vous avez parlé de crépuscule de la puissance entre France-Afrique. Est-ce que vous pouvez développer cette question, je vous prie?
Écoutez, donc le dernier livre sur la France-Afrique, c'est l'Empire qui ne voulait pas mourir. C'était le projet de Macron et de Le Drian. Mais aujourd'hui, la France-Afrique est en train de mourir. Nous assistons au crépuscule de la France-Afrique. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que le problème des Africains, c'est un problème global, c'est l'impérialisme du bloc américain occidental. Et comme je le dis, la détestation des Français, elle est légitime, elle doit être comprise, mais la grande ombre de la France-Afrique, elle ne doit pas dissimuler la main du marionnettiste américain. Les Français doivent être dégagés de l'Afrique, mais ensuite, ça doit être le cas de leur maître américain et de leurs complices, notamment les Turcs et les Allemands de Mme Merkel. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que le terrorisme qui frappe l'Afrique, le responsable, ce sont les impérialistes américains. C'est cela qu'il faut constater. Il ne faut pas se focaliser sur les Français, il faut se focaliser sur le phénomène global de l'impérialisme
Luc Michel,
occidental.
Luc Michel, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous dites que les Français seront remplacés par les États-Unis peut-être à l'avenir en Afrique?
Les Français sont en train d'être remplacés par les Américains et les Américains entendent remplacer comme domestiques en Afrique les Français par les Turcs. La Turquie, c'est le cheval de Troie des Américains. Ils ont repris le contrôle de la Libye en 2019 avec l'aide des terroristes syriens venus d'Idlib pour le compte des Américains. Et maintenant, dans tous les pays où la Russie y intervient, eh bien, les Turcs sont en train d'intervenir comme cheval de Troie. Qu'est-ce qui explique la chute de la France-Afrique? C'est que les Russes, ils mènent une guerre hybride avec l'aide de la Turquie contre les Occidentaux. Et cette guerre hybride, elle s'est attaquée en premier lieu au ventre mou de l'impérialisme français, de l'impérialisme, excusez-moi, occidental en Afrique. Ce ventre mou, c'est la France-Afrique. Les Russes se sont attaqués aux Français et les Iraniens s'attaquent aux Français parce qu'ils ont compris que le ventre mou de l'impérialisme occidental, c'était la France. La France-Afrique, donc, elle doit dégager de l'Afrique mais ensuite il faut s'attaquer à l'impérialisme américain et occidental.
Est-ce qu'il va le faire, M. Luc Michel?
Oui, oui, c'est en route tout à fait. La guerre hybride menée par la Russie et l'Afrique, elle est en train de faire dégager les Français, mais l'étape suivante, évidemment, ce sont les États-Unis et les Allemands. Actuellement, il y a une grande campagne américaine contre les Russes en Afrique. C'est la grande campagne contre Wagner, qui n'est pas une campagne française, mais une campagne américaine. Évidemment, il s'agit bien entendu de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de faire dégager les Américains.
Luc Michel, géopoliticien, vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité.
La Fed va-t-elle faire s'effondrer les marchés financiers mondiaux? Il semble de plus en plus probable que la Réserve fédérale américaine, la Fed, et les pouvoirs mondialistes utiliseront la hausse spectaculaire de l'inflation comme excuse pour faire s'effondrer les marchés financiers américains et faire éclater la plus grande bulle financière de l'histoire. L'énorme hausse de l'inflation, depuis les verrouillages politiques malveillants et les milliers de milliards de dollars de dépenses d'urgence de Trump et de Biden, associés à la poursuite des politiques sans précédent de la Fed en matière de taux d'intérêt quasi nuls et d'achat d'actifs de milliards d'obligations pour maintenir la bulle gonflée un peu plus longtemps, ont préparé le terrain pour un effondrement imminent du marché. Contrairement à ce que l'on nous dit, il est délibéré et géré. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis l'Asie jusqu'au transport normal par camion en Amérique du Nord alimentent la pire inflation depuis 4 décennies aux États-Unis. Le décor est planté pour que les banques centrales fassent tomber le système surchargé de dettes et préparent leur grande réinitialisation du système financier mondial. Cependant, il ne s'agit pas d'une question d'inflation comme un processus mystérieux ou temporaire. Le contexte est essentiel. La décision de faire s'effondrer le système financier se prépare au milieu des mesures de pandémie mondiale de grande envergure qui ont dévasté l'économie mondiale depuis début 2020. Elle intervient alors que les puissances de l'OTAN, dirigées par l'administration Biden, font basculer le monde dans une guerre mondiale potentielle par mauvais calcul. Elle déverse des armes et des conseillers en Ukraine, provoquant une réponse de la Russie. Elle intensifie les pressions sur la Chine au sujet de Taïwan et mène des guerres par procuration contre la Chine en Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique et dans d'innombrables autres endroits. L'effondrement imminent du système du dollar, qui entraînera la plupart des pays du monde dans sa chute en raison des liens de la dette, se produira lorsque les principales nations industrielles s'engageront pleinement dans l'autodestruction économique par le biais de leur Green New Deal dans l'Union européenne, aux États-Unis et au-delà. Les politiques ridicules du zéro carbone, visant à éliminer progressivement le carbone, le pétrole, le gaz et même le nucléaire, ont déjà conduit le réseau électrique de l'Union européenne au bord du gouffre des pannes d'électricité majeures cet hiver, car la dépendance à l'égard de l'énergie éolienne et solaire, peu fiable, constitue une partie importante du réseau. Le 31 décembre, le nouveau gouvernement allemand vert supervise la fermeture forcée de 3 centrales nucléaires qui produisent l'équivalent en électricité de tout le Danemark. L'éolien et le solaire ne peuvent en aucun cas combler les lacunes. Aux États-Unis, les politiques mal nommées de Biden, Build Back Better, ont fait grimper les prix des carburants à des niveaux records. Augmenter les taux d'intérêt dans cette conjoncture dévastera le monde entier, ce qui semble être précisément le plan. Les fausses données sur l'inflation aux États-Unis. Depuis le début des années 1970, lorsque le président Nixon a demandé à son ami Arthur Burns, alors à la tête de la Réserve fédérale, de trouver un moyen de se débarrasser des données mensuelles de l'inflation des consommateurs, politiquement préjudiciables, qui reflétaient la flambée des prix du pétrole et des céréales, la Réserve fédérale a utilisé ce qu'elle a appelé l'inflation de base, c'est-à-dire la hausse des prix à la consommation, moins l'énergie et l'alimentation. À l'époque, l'énergie représentait un poids significatif de 11% des données d'inflation. L'alimentation avait un poids de 25%. Presto, en 1975, une hausse de 400% des prix du pétrole par l'OPEP et une hausse de 300% des prix des céréales au niveau mondial en raison des mauvaises récoltes dans la région soviétique, l'inflation de base a chuté de manière significative. Et ce, malgré le fait que les consommateurs américains aient dû payer beaucoup plus cher leur essence et leur pain. Très peu de personnes réelles peuvent vivre sans énergie ou sans nourriture. L'inflation de base est une escroquerie. En 1975, la Fed de Burns avait éliminé les coûts importants du logement et d'autres facteurs, laissant un indice des prix à la consommation qui ne représentait que 35% du panier initial de produits mesurés. À cette époque, l'inflation réelle quotidienne était hors de contrôle. Dans le monde réel, l'essence aux États-Unis est aujourd'hui 58% plus chère qu'en 2020. Et au cours des 12 derniers mois, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 6% en moyenne. Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation des États-Unis ne tient pas compte du coût de l'achat et du financement des maisons, ni des taxes foncières ou de l'entretien et de l'amélioration des logements. Ces facteurs ont grimpé en flèche dans tous les États-Unis au cours de l'année écoulée. Il ne manque plus qu'une déclaration de la Fed indiquant que l'inflation est plus alarmante qu'elle ne le pensait et qu'elle nécessite des hausses de taux agressives pour extraire l'inflation du système, un mythe courant des banques centrales devenu dogme sous Paul Volcker dans les années 1970. Le marché boursier américain hypertrophié. Les marchés de Wall Street, où les actions atteignent aujourd'hui des sommes historiques, aidées par des taux d'intérêt proches de zéro et par les 120 milliards de dollars d'achats mensuels d'obligations par la Fed, sont à un point tel qu'un revirement de politique de la part de la Fed, attendu maintenant au début de 2022, pourrait déclencher une sortie panique des actions pour sortir tant que c'est possible. Cela déclenchera probablement des ventes de panique et un effondrement du marché qui fera boule de neige et fera passer le récent effondrement des actions et de l'immobilier d'Evergrande en Chine pour rien du tout. Depuis la crise financière mondiale de septembre 2008, la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales telles que la BCE dans l'Union européenne et la Banque du Japon ont pratiqué des taux d'intérêt nuls sans précédent et souvent des achats d'obligations dans le cadre d'un assouplissement quantitatif pour renflouer les grandes institutions financières et les banques de Wall Street et de l'Union européenne. Cela n'avait pas grand-chose à voir avec la santé de l'économie réelle. Il s'agissait du plus grand sauvetage de l'histoire de banques et de fonds financiers en état de mort cérébrale. Le résultat prévisible des politiques sans précédent de la Fed et des autres banques centrales a été l'inflation artificielle de la plus grande bulle spéculative sur les actions de l'histoire. En tant que président, Donald Trump a constamment souligné les nouvelles hausses records des actions du S&P 500 comme preuve de l'essor de l'économie, même si en tant qu'homme d'affaires avisé, il savait que c'était un mensonge. La hausse était due à la politique de taux d'intérêt zéro de la Fed. Les entreprises empruntées à des taux bas, non pas pour accroître leurs investissements en usines et en équipements, mais pour racheter leurs propres actions sur le marché. Cela a eu pour effet de faire grimper les actions de sociétés telles que Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla et des centaines d'autres. C'était une manipulation que les dirigeants d'entreprises qui possédaient des millions d'actions de leur propre société sous forme d'options ont adoré. Ils ont gagné des milliards dans certains cas, tout en ne créant aucune valeur réelle dans l'économie. Mais quelle est l'ampleur de la bulle boursière américaine d'aujourd'hui? La prochaine fois, nous poursuivrons cette étude. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.